Oui, merci. Donc, je vais me présenter, Thibaut Rigaud. Je vais me remettre le masque. Je suis actuellement responsable d'un service prévention-médiation à la ville de Fontaine. Fontaine est une commune moyenne de moins de 23 000 habitants dans la couronne grenobloise. Et je vais plus particulièrement, on va plus particulièrement vous parler d'un équipement qui s'appelle la Maison du Temps Libre, qui est implantée dans un quartier qu'on va appeler le quartier des Alpes, qui est positionné géographiquement un peu en centralité par rapport à la commune. Un quartier qui a été inscrit depuis le début des politiques de la ville, comme dans les cartographies prioritaires, longtemps en zone 2, et puis Marine y reviendra comme zone prioritaire niveau 1 depuis 2014, je crois. Pour vous situer un petit peu cet équipement dans ce quartier est structuré autour d'un îlot central qui est constitué d'un parc. Qui est actuellement d'ailleurs en réaménagement. Et autour de ce parc, borné par deux écoles, à l'est et à l'ouest, il y a deux sous-quartiers qui constituent ce fameux quartier des Alpes, un quartier qu'on appelle le quartier des Écrins, et puis donc le Mail, qui est une voirie courbe qui passe devant cet équipement, équipement dont je vais revenir en termes de fonctionnement, et qui existe depuis l'époque des 1000 clubs, pour ceux qui ont connu ou qui connaissent. Et équipement qui est donc en bordure de ce quartier, mais sur une dimension de quartier quand même relativement petite, puisque les groupes présents aux abords de cet équipement, entre autres, sont des groupes d'individus qui sont fontainois pour la majorité et qui habitent proche de ce secteur, voire dans ce quartier. Pour dépeindre un petit peu le contexte de cet équipement, qui est annexé à un petit gymnase, il est sur une voie relativement importante dans Fontaine qui part de l'hôtel de ville et qui va rejoindre un autre axe important en bordure de Fontaine. Et c'est un équipement qui est implanté dans une partie où, qui est fortement en habitat social. Alors que de l'autre côté du parc, sur l'autre partie un petit peu, c'est plus un projet de ZAC qui a structuré les aménagements urbains. Et donc on a plus un habitat mixte qui mêle bailleurs et propriété privée. Et il y a une interaction, mais un cloisonnement en parallèle de ces deux sous-quartiers, on va dire, mais avec des interactions très très fortes en termes d'usage ou de présence de Fontainebleau ou de non-Fontainebleau. La Maison du Temps Libre, donc, c'est un équipement qui a toujours eu une vocation à accueillir du public. C'est un petit équipement et qui, après de longues périodes d'activité, d'accueil de public mineur, petite enfance, enfance ou jeunesse, a vu s'interrompre en termes d'utilisation par les acteurs professionnels et particulièrement par les services de la ville du fait des problématiques de regroupement ou de dégradation, ou de gêne à l'activité qui était générée par des groupes qui stationnaient aux abords de ce même lieu. Pour dépeindre un petit peu aussi l'histoire par le prisme, un petit peu des questions de délinquance sur le secteur, ça a toujours été un quartier, et même il y a quelques années, encore plus fortement que maintenant, très marqué par une identité revendiquée des groupes. Il se dénommait la ZAC, on avait des graffitis un peu partout, des tags un peu partout de signatures, avec évidemment une implication très très forte dans les questions de consommation de stupéfiants ou de trafic. Pour revenir à la question un peu de cet équipement, du fait de son positionnement un peu central sur cette fameuse voie, ce mail, il a toujours été un lieu naturel en fait de regroupement, permettant une visibilité pour les personnes présentes assez loin en fait, donc on voit venir les gens de loin. Et puis surtout avec ce fonctionnement de parc à l'arrière et ces voiries assez larges, des points de fuite importants. Ce qui explique aussi la manière dont ça peut être utilisé comme un espace où à la fois on peut se retrouver et on est visible par les autres, et à la fois on peut organiser des trafics parce que du coup on a une certaine sécurité à la réalisation de ces trafics. Voilà, cet équipement a vu quelques transformations en termes d'usage, et particulièrement ces dernières années, on y reviendra. a été un peu le noyau dur d'une partie des projets de réaménagement et de restructuration dans le quartier. Et un projet concerté entre partenaires et services de la ville a permis de redéfinir, on va dire, un usage. Et on arrive là aujourd'hui à une période où on va avoir l'équipement, le nouvel équipement livré dans les semaines qui viennent. Et de même que le parc, qui est quand même assez structurant dans ce même secteur, a subi aussi quelques transformations et réaménagements. Et là aussi, on va avoir la livraison dans les prochains jours. Et ça aussi, ça va nous amener à peut-être à regarder la question des enjeux futurs et des perspectives de façon plus précise au regard du coup des usages qui pourront s'y déployer. Sur la question du coût de l'équipement, ce que je voulais aussi dire, c'est la manière dont on a assuré un peu ce travail et de suivi et d'observation et d'action évidemment par rapport à ces dynamiques de présence de groupes qui ont évolué dans ces 30 dernières années, on va dire. Hein, évidemment, c'est pas les mêmes individus, mais avec des hauts et des bas, avec des cycles, on va dire, une omniprésence très forte et parfois très très dure, avec des tentatives d'incendie, par exemple, de cette même équipement. Et comme je vous le disais, un choix d'arrêter une activité d'accueil de loisirs pour des jeunes du fait de la gêne occasionnée par la présence de ces individus qui, en gros, ont été des groupes constitués entre pré-ados, ados, jeunes adultes, voire adultes. Donc, la ville de Fontaine a une politique de prévention de la délinquance depuis de nombreuses années, incarnée par un poste qu'aujourd'hui j'occupe d'ailleurs, en charge de coordonner ces instances de prévention de la délinquance, mais aussi avec un maillage local d'acteurs et d'habitants qui, évidemment, surtout il y a quelques années en arrière, étaient fortement investi dans ce qui pouvait se passer dans ces sous-quartiers ou dans ce quartier, mais mouvement ou collectif d'habitants qui s'est essoufflé quand même avec ces dernières années et qui aujourd'hui est encore un enjeu, on y reviendra certainement, en termes de mobilisation et de coproduction. Mais en tout cas, ils ont été une source aussi d'échanges, d'informations et de coproduction d'actions depuis toutes ces dernières années. On a des dispositifs contrats locaux de sécurité aujourd'hui, stratégie locale de prévention de la délinquance et de sécurité qui existent et qui ont permis la mise en place de réunions type CLS, donc conseil local de sécurité, conseil de quartier, collectif d'habitants, animation de collectifs d'habitants, qui ont été un peu de ces espaces, soit de concertation, soit de partage. Soi-même de déploiement de stratégies ou d'actions sur ce même territoire ou dans ce même équipement. C'est un équipement qui a eu ces 10 dernières années, 15 dernières années, une vocation à être beaucoup plus investi par les habitants. On y reviendra aussi, en tout cas, Marine y reviendra un petit peu plus tout à l'heure sur un choix après que cet équipement, le service jeunesse en l'occurrence, ait quitté un petit peu les lieux, de réinvestir cet espace en partenariat avec les acteurs locaux, mais aussi les habitants, pour occuper l'espace, recréer une dynamique d'animation et donc du coup de laisser moins de place à d'autres mésusages. Un dispositif de gestion urbaine de proximité aussi, social de proximité, c'est déployé sur ce même quartier aux abords de l'équipement. Aujourd'hui, dispositif qui est plus incarné par un professionnel, mais reste une mission intégrée au service technique, mais qui pour autant est moins dynamique en termes de production de projet. Toutefois, ça a été quand même comment dire, une dynamique de travail et de collaboration qui a vu du coup déployer avant ces grands projets de restructuration dont j'ai parlé un certain nombre d'aménagements, d'interventions dans et autour de cet équipement, particulièrement dans le parc, en termes d'aménagement d'espace, par exemple, petite enfance, entre autres, etc. Espace multi-activité, etc. etc. Peut-être aussi pour finir de dépeindre un petit peu ce contexte autour de l'équipement, c'est que paradoxalement, on a peu de services intégrés proches dans ce quartier. On a beaucoup d'acteurs autour du quartier des Alpes. Pendant longtemps, il a fallu structurer de l'activité, des projets, des dynamiques en important. Sans avoir cet appui de proximité en tout cas. La nature du projet renouvelé de cet équipement aujourd'hui et donc reconstruit va amener un usage différent avec la présence pérenne de services publics au sein même de l'équipement et certainement va générer un impact aussi en termes d'utilisation des espaces, d'usage des espaces. Et donc on va pouvoir aussi du coup regarder un petit peu et mesurer et accompagner surtout puisque tout l'enjeu, évidemment, il est d'accompagner ces évolutions et ces aménagements pour permettre à ce que les habitants y vivent, en tout cas, de manière plus apaisée. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais peut-être laisser ma collègue peut-être Alpizar Habitat décrire un petit peu comment, qui est quand même un bailleur très important en termes de bâti sur les abords de l'équipement, dans cette partie mail justement. Peut-être faire un peu une présentation.
Alors, bonjour à tous. Donc, Hélène Pacou, je suis chef de projet cohésion sociale et urbaine pour le bailleur Alpizar Habitat. Et du coup, moi, je travaille pour la direction territoriale de Fontaine, qui, en l'occurrence, les locaux sont situés au cœur de ce quartier dont on parle. On est voisin direct et immédiat de la Maison du Temps Libre. Et ça, depuis 2014. En fait, Alpizar Habitat a fait le choix de s'implanter dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier dans lequel on avait beaucoup de patrimoine et qui nous semblait être un enjeu assez important. Donc c'est vrai qu'autour de la Maison du Temps Libre, on est le seul bailleur. On a à peu près 400 logements qui sont répartis autour de la Maison du Temps Libre. Et alors nous, on est impacté en tant que bailleur par la présence du trafic, évidemment, puisque les habitants surtout subissent des dégradations, des squats régulièrement dans certaines montées en particulier, mais voilà, comme ça a été expliqué, ça bouge en fait. Les secteurs occupés bougent en fonction des interventions qu'on peut faire, ce qui complexifie la tâche. Et du coup, côté bailleur, nous, on essaye surtout d'être réactif quand on a des dégradations. Donc ça passe par des travaux de réparation des dégradations quand elles ont lieu. On essaye d'anticiper en prévoyant des travaux de sécurisation, notamment des accès, que ce soit les montées directement ou les accès des caves, par exemple. On a fait ces dernières années un gros travail en termes de sécurisation, notamment grâce au crédit dont on dispose lié à l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires. Ça nous a permis de faire un gros travail autour de ces questions-là. Voilà, on essaye aussi d'occuper un peu le terrain, mais avec toutes les limites qu'on a nous en tant que bailleurs, c'est-à-dire que, alors nous on est présents de toute façon sur le site en journée, mais pas en soirée. Nos agents, c'est la même chose, on a des agents qui s'occupent de l'entretien des immeubles qui sont présents la journée, mais qui ne sont pas présents en soirée. Les agents techniques, pareil, interviennent en journée, mais pas en soirée. Et c'est beaucoup plus en soirée que les problématiques se posent, évidemment. Du coup, régulièrement, on essaye quand même de proposer des temps d'animation aux habitants. Ça a pris la forme de journées de grand nettoyage qu'on a organisées en partenariat avec une association locale, l'Agile, qu'on a organisé 2 années de suite. On a fait aussi des partenariats avec le Street Art Festival qui intervient sur Grenoble et sur toute l'agglo. Et donc, il y a pour l'instant, on a une fresque qui a été réalisée en 2019 sur le pignon d'un des bâtiments qui n'est pas très loin de la Maison du Temps Libre d'ailleurs. Et donc, pour l'inauguration de la fresque, on a, en collaboration avec les services de la ville, on a fait tout un temps fort autour de ça, un temps festif pour les habitants. Cette année, on recommence. Enfin, l'année dernière, on n'a rien pu faire, évidemment. Et cette année, on recommence. Il y a une deuxième fresque qui est prévue sur un autre bâtiment. Et donc, on est en train aussi d'organiser pas d'inauguration, mais voilà, un temps autour de cet événement-là, encore une fois en partenariat avec les services de la ville. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Bonjour, donc moi c'est Marine Colleux, je suis chef de projet politique de la ville sur la commune de Fontaine. Du coup, Fontaine n'a plus qu'un seul quartier prioritaire, qui est donc le quartier duquel on parle cet après-midi, qui est le quartier Alpes-Maille-Cachin, et quatre quartiers dits en veille active. Je vous le dis parce que c'est assez important. En 2014, le nouveau mandat municipal a coïncidé avec le renouvellement de la cartographie prioritaire. Et donc, pour notre territoire, ça a été une perte du coup de quatre quartiers qui étaient classés anciennement prioritaires, pour n'en garder plus qu'un. Mais ça a, côté pile de la pièce, permis de régler la focale sur ce secteur-là. Non pas qu'il était oublié des acteurs sociaux, des municipaux, associatifs, mais en tout cas, les problématiques pouvaient être parasitées par d'autres problématiques qui pouvaient arriver ailleurs. Et donc, du coup, je parle trop fort.
Pardon, c'est trop bloqué.
Pour moi, je continue à parler. Trouble. Et donc, ça nous a quand même permis de concentrer un certain nombre de moyens humains et, de facto, de concentrer un certain nombre de moyens financiers sur ce secteur-là. Donc, une problématique, on l'a dit, de regroupement plus ou moins agressif, plus ou moins lié à des trafics de drogue sur le secteur et devant cet équipement Maison du Temps Libre qui venait. On va dire, cristalliser un certain nombre de tensions avec les habitants, des craintes, des appréhensions de passer devant ce bâtiment qui, quand on connaît le quartier, est vraiment presque un passage obligé en fait pour pouvoir circuler même à travers la ville et donc de nombreux problèmes annexes. Moi, je relevais, on va dire, un facteur majeur de la réussite, on va dire, provisoire de déplacement des groupes pendant quelques années. Bon, là, il va falloir qu'on trouve qu'on imagine d'autres choses. Mais un copilotage, en tout cas, d'initiatives par le secteur ville durable de la ville, donc qui concerne toute la réalisation des projets urbains, le lien à l'habitat, au cadre de vie. Et ce copilotage, donc ville durable et centres sociaux de la ville, qui, eux, venaient sur une proposition de programmation régulière, partenariale, d'animation sur ce quartier qui, comme l'a dit Thibault, avait été un peu délaissé, un équipement qui était un petit peu vide, même s'il y avait des associations qui y venaient de temps en temps, mais pas très agréable à utiliser, avec toutes ces appréhensions qu'il pouvait y avoir autour. Du coup, ce copilotage, ça a vraiment permis pendant plusieurs années, de mener un projet qui s'appuyait vraiment sur deux jambes solides, à la fois. Un projet urbain pensé en cohérence avec une programmation socioculturelle, en tout cas régulière. Rapidement, du coup, un projet intermédiaire, on l'a dit, sur un rafraîchissement d'un équipement qui était peu utilisé, donc du coup, de pouvoir donner aux habitants et aux professionnels qui intervenaient dessus des conditions satisfaisantes d'intervention, peinture, sécurisation des entrées, du parvis, végétalisation de l'espace autour, ouverture des volets qui étaient fermés. Donc, je vous garantis que ce n'est pas très agréable de faire un atelier de percussion dans le noir avec des enfants en pleine journée. Voilà, c'était d'amener du confort d'usage de manière temporaire. et une programmation mensuelle portée par les centres sociaux de la ville, mais en partenariat avec tout un tas d'acteurs associatifs, bien sûr, les éducateurs spécialisés, la MJC, mais aussi la source, qui est l'équipement culturel de la commune, le service jeunesse, le service santé, voilà, tout un tas d'acteurs qui venaient se greffer au programme. Et Hélène l'a dit, une collaboration du coup sur des temps d'animation dans l'espace public aux abords de la MTL, avec le bailleur aussi, ce qui nous semblait, ce qui était important, parce que du coup on faisait la connexion aussi avec l'environnement très proche de cette maison du temps libre. Et une deuxième phase du projet qui forcément... une extension de cette maison du temps libre avec deux potentiels services pérennes qui vont arriver là en juin, mais du coup un bâtiment qui était fermé, plus utilisé, alors qu'on avait proposé des choses pendant 2 ans et demi. Et donc il a fallu aussi repenser ces choses-là. Donc actuellement, il y a un investissement très fort du parc dont on a parlé, qui est vraiment en centralité du quartier, qui fait le lien entre les deux sous-ensembles, on va dire, de ce secteur. Et qui aujourd'hui les animations qui sont proposées régulièrement par les collègues du secteur social rencontrent des succès importants, avec du monde, avec une satisfaction des personnes, ce qui n'est pas anodin sur un quartier, qu'il y ait du monde, c'est pas anodin sur un quartier où on a du mal à faire venir les gens. On a du mal à même les inviter sur des temps qui sont festifs. Je reprends l'exemple de la fresque de street art et de l'inauguration. On y allait un peu sur la pointe des pieds parce qu'on se disait on va mettre beaucoup de moyens autour d'une inauguration comme celle-là, et il est aussi possible qu'on ait 5 personnes. Et en fait, c'est plus le cas. C'est un quartier qui désormais arrive à attirer du monde de l'extérieur de la ville, du reste de la ville, à attirer des habitants, à les faire descendre de chez eux. Du coup, ça, c'est vraiment un point positif, et je pense que c'est à mettre au crédit de ces actions-là, en tout cas, d'avoir réussi à rassurer les personnes et à faire une proposition de qualité régulière. Donc, voilà sur ce qui peut être fait pendant le projet. Et Thibault l'a dit, du coup, sur le volet plutôt urbain et renouvellement, de pouvoir indiquer aux personnes qu'il va y avoir des services publics en permanence sur cet équipement, et que pour autant la salle polyvalente qu'ils utilisaient il y a de nombreuses années en arrière, elle est maintenue et elle est requalifiée, remise à neuf, et donc qu'elle devienne aussi un équipement à disposition des habitants et des choses qu'ils voudraient mettre en place dans leur quartier. Du coup, je me permets d'enchaîner sur la question des perspectives. Je vais donner les miennes, enfin en tout cas celles que je pointerai là-dessus sur les enjeux à venir. Pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui, ça reste la participation des citoyens et leur implication dans la vie du quartier, puisque même si on le voit, les gens sont plus présents, on est encore dans une logique de... on est sur un quartier où les gens viennent bénéficier d'animations, mais pour autant, ça reste très compliqué de les impliquer au-delà de ce genre de pratique, c'est-à-dire de venir sur une fête de quartier un samedi après-midi. Eh ben, c'est une vraie réussite de réussir à les faire venir aujourd'hui, mais on a encore du mal à en capter quelques-uns pour pouvoir venir monter des choses avec nous. Et ce projet à la fois de l'équipement Maison du Temps Libre et du parc Jean Moulin qui est à l'arrière et donc qui est restructuré, le fait qu'on n'ait pas des personnes comme ça accrochées ou sur lesquelles on arrive à travailler des questions plus fines de coproduction pose un enjeu fort en tout cas de réappropriation de ces espaces parce qu'ils sont neufs, parce qu'ils sont très différents en termes d'usage de ce qu'ils avaient pu connaître avant. Et donc, on le disait, des problématiques de regroupement qui sont cycliques et donc qui reviennent. Donc, on a quand même cet enjeu-là à maintenir une veille et à réussir à impliquer plus fortement les habitants du quartier sur les années à venir, en tout cas, pour pouvoir continuer une dynamique, pas seulement en interne, à réfléchir sur des choses très, très belle et très dynamique, mais à pouvoir impliquer plus de monde, et notamment les personnes qui habitent en ultra-proximité et qui restent encore, à mon goût, un peu éloignées de ces enjeux-là.